à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, voilà, je me présente, je suis Thomas Fouque, graveur et imprimeur en taille douce. J'ai eu l'honneur au cours de l'année 2018 de me voir attribuer le prix Frédéric et Jean de Vernon et je remercie l'Académie pour son soutien. Alors je me présente, voilà, je suis né en 86 à Bastia, j'ai grandi dans un petit village à côté d'Alès, aux portes des Cévennes, puis je suis allé à Nîmes durant mon adolescence. Fait marquant, vers mes 7 ans, voilà, je participais à des ateliers de création animés par deux femmes. Et on est parti à la découverte des artistes catalans, donc Miro, Picasso, Gaudi, Dali. Et on est parti sur un petit bateau de pêcheurs jusqu'à Barcelone. Au cours de ce voyage, on a écrit un livre avec un artiste, avec un écrivain, et on a illustré ce livre. Donc c'est un fait marquant qui m'a lié définitivement avec le monde de l'art, qui m'a marqué pour la vie, voilà. Cette expérience ne m'a pas quitté, et puis une dizaine d'années plus tard, voilà, je réussis le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et me voilà à Paris, je me spécialise en images imprimées, donc tout ce qui concerne l'image, et c'est là qu'on me parle de gravure pour la première fois. Je n'avais pas du tout connaissance de cet art, et j'ai été initié aux techniques de gravure par une enseignante, Françoise Roy, qui, à ma connaissance, enseigne toujours. Et ça a été pour moi une grande découverte. J'avais absolument aucune idée de cette technique, et j'ai tout de suite été très emballé par cette découverte. Mais j'étais quand même, à ce moment-là, beaucoup plus peinture. Au cours de mes études, j'ai pris une année de césure, je suis parti en Argentine, un an. J'ai rencontré beaucoup d'artistes là-bas, et j'ai travaillé comme assistant d'un plasticien, un sculpteur et un peintre. Une fois rentré, j'ai repris mes études, j'ai terminé mes études et j'ai dû réaliser un stage en entreprise. Et comme j'étais porté sur la gravure à ce moment-là, j'ai trouvé cet atelier de gravure, les ateliers Moret à Paris, dans le 5e, donc vraiment pas très loin de l'école. J'ai juste descendu la montagne Sainte-Geneviève et je me suis retrouvé voilà, au 8 rue Saint-Victor. Donc on ne se doute pas du tout qu'il y a un atelier dans ce quartier-là. C'est une fois passé, voilà, on passe une lourde porte jaune. Et on se retrouve dans un long couloir sombre. À ce moment-là, on se demande un peu où est-ce qu'on va. Et au bout de ce couloir, il y a un escalier. Et une fois arrivé au premier étage, vous avez un mur rempli d'affiches sur des expositions passées, essentiellement de la gravure. Et à ce moment-là, on sait qu'on n'est pas très loin, qu'on touche au but. Et il y a cette odeur voilà, inhabituelle qui arrive, c'est l'odeur des encres. Et cette odeur des encres, elle est vraiment caractéristique de cette imprimerie-là. D'ailleurs, tous les gens qui arrivent pour la première fois nous font part de leur surprise, et puis sur cette odeur-là particulière. Et me voilà dans l'un des derniers ateliers professionnels de gravure en France, et je n'en suis jamais parti. Donc j'ai fait mon stage, je me débrouillais pas trop mal à l'époque, et ils avaient pas mal de boulot, donc ils m'ont demandé de venir les aider occasionnellement. Et puis j'ai vite été très emballé par ce travail-là, je m'entendais bien avec l'équipe, et donc j'ai fait une demande pour obtenir une bourse de la ville de Paris, destinée à des jeunes qui désirent se former dans des ateliers d'artisanat d'art. J'ai obtenu cette bourse d'un an et donc j'ai pu me former voilà, sans que ce soit une contrainte pour l'atelier. Et puis après ça, j'ai pris ma carte d'auto-entrepreneur et j'ai commencé à travailler comme artisan indépendant aux ateliers Moret. Et ça tombait plutôt bien parce qu'à ce moment-là, Monsieur Moret était sur le point de prendre sa retraite. Et donc j'ai repris l'atelier avec Mathieu Perramant, qui a fait l'école Estienne, qui a aussi une formation de graveur comme moi, et puis Didier Manon-Villers, qui lui était l'acolyte de Monsieur Moret, qui a 40 ans de métier. Donc pas de salariés, on est tous indépendants, on mutualise les biens, donc on partage les presses, le papier, les encres, et on se répartit les artistes. Alors je vais parler un petit peu de ce qu'est l'imprimerie en taille douce. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Dans cette imprimerie-là, on est chargé d'imprimer des gravures en creux sur des plaques gravées en creux sur des plaques de métal. Donc l'artiste nous amène sa plaque gravée, il la confie à l'imprimeur et on est chargé de voir avec lui voilà, le choix de l'encre, du papier, l'essuyage, pour réaliser ce qu'on appelle un bon à tirer. Donc il s'agit de répondre aux désirs de l'artiste, qui ne sont pas toujours des plus faciles à réaliser, mais c'est là tout l'intérêt du travail. Nous, on propose notre savoir-faire à l'artiste, et l'artiste nous met un peu au devant de notre technique, de notre savoir-faire, et nous pousse à nous dépasser toujours plus. On apprend toujours, hein. Là, ça fait 10 ans voilà, que je travaille maintenant aux ateliers Moret, et j'apprends encore aujourd'hui. Dans ce type de métier, voilà, il faut bien séparer graveur et imprimeur. Le graveur n'imprime pas, l'imprimeur ne grave pas. Aujourd'hui, ça a tendance à changer parce que les jeunes qui ont intégré ce genre d'atelier sortent pour la plupart d'écoles de gravure, d'art, et ont une formation de graveur. Voilà. C'est le cas pour Mathieu, c'est le cas pour moi aujourd'hui. Et une fois qu'on a ce BAT, on vient avec l'artiste d'un nombre de tirages et on doit rester le plus fidèle possible à ce bon à tirer. C'est toute la difficulté, c'est de rester le plus fidèle possible. De faire en sorte que chaque épreuve se rapproche le plus. Bien sûr, on n'est pas des machines, donc il y a toujours des petites différences, mais voilà, il faut que ça reste suffisamment rapproché du bon à tirer. Dans ce métier, ce qui est surtout passionnant, c'est la collaboration hein, avec l'artiste. Il y a un vrai lien qui se crée entre l'artiste et l'imprimeur, une vraie complicité, parce qu'au fil des années, voilà, on apprend à se connaître. Et l'artiste pousse l'imprimeur dans ses retranchements à proposer de nouvelles choses, et puis l'imprimeur propose également à l'artiste de nouvelles manières de procéder. Pour citer quelques exemples de collaboration, on peut parler par exemple d'Éric de Desmazières avec René Tazé. D'ailleurs, il y a une très belle expo en ce moment à la galerie Document 15. Allez-y, parce qu'on comprend voilà, tout le travail qui est fait entre l'artiste et l'artisan. Et je crois que ça fait quand même plus de 40 ans voilà, que les deux collaborent. On peut citer aussi les frères Crommelinck, par exemple, avec Picasso, qui a été une collaboration fructueuse. Et vous avez, par exemple, aussi Soulages, avec Roger Lacourrière, qui est venu le chercher à l'époque où il ne connaissait rien à la gravure, et lui a proposé de réaliser une gravure. Et quand on voit le travail de Soulages aujourd'hui en gravure, voilà, on se dit qu'il avait vu juste. Alors, les procédés d'impression, on peut changer depuis la création de l'imprimerie au XVe siècle. Hein. Les presses sont identiques, les encres, c'est à peu près les mêmes recettes. Le cuivre a changé, parce qu'au début, c'était des plaques de cuivre, c'était du cuivre martelé, donc avec des cuissons différentes d'aujourd'hui. Certains graveurs nous disent d'ailleurs que le cuivre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le cuivre qu'ils utilisaient à l'époque. Et puis au niveau de l'outillage, c'est le même. Et puis sur les matières premières, papier, tarlatane, ça a un peu changé aussi. Ce qu'on trouve aujourd'hui de nouveau, c'est peut-être l'utilisation du plexiglas, qui est un matériau peu coûteux, surtout utilisé par les jeunes graveurs, voilà, sur lequel on peut utiliser les outils traditionnels. Donc ce qui est passionnant, voilà, c'est qu'on imprime comme on imprimait à l'époque, et on grave toujours comme il y a 500 ans, comme des Durer, des Rembrandt, des Callot, des Abraham Bosch. L'évolution du métier, je dirais que c'est surtout dans les éditions. On ne réalise plus des éditions aussi importantes qu'avant. On dépasse rarement les 100 impressions. Les éditeurs, malheureusement, il y en a de moins en moins. Et les galeristes, c'est pareil. Ça se fait un peu trop rare aujourd'hui. Il y a peu d'amateurs de gravures. Et puis, c'est vrai que la gravure est devenue un petit peu méconnue du grand public. Donc, c'est bien aujourd'hui de pouvoir en parler, pouvoir un petit peu expliquer la technique. C'est pour ça aussi que nous, on ouvre volontiers les portes de notre atelier voilà, aux gens qui sont désireux d'en savoir un petit peu plus. Je vais vous parler brièvement des techniques de gravure. Donc dans la gravure en taille douce, hein, principalement, donc il faut distinguer la gravure taille douce de la taille d'épargne. La taille d'épargne, c'est aussi ce qu'on appelle la xylogravure ou la gravure sur bois ou la gravure sur lino. On creuse avec une gouge et en fait c'est l'inverse de la gravure en taille douce, c'est-à-dire que tout ce que je vais creuser va rester blanc, je vais imprimer uniquement la surface. Dans la gravure en taille douce, l'idée voilà, c'est de faire un creux sur la plaque et ensuite de déposer de l'encre dessus, de la faire bien pénétrer à l'intérieur du creux et de faire en sorte qu'elle reste dans ce creux. Vous avez deux types de tailles. Vous avez ce qu'on appelle la taille directe. Par la taille directe, en fait, on utilise des outils directement sur la plaque de métal. Vous avez par exemple la pointe sèche qui est assez basique puisque se tient comme un crayon à la verticale et c'est une aiguille au bout d'un manche en bois. Vous avez le burin plus ancien qui est un peu comme une gouge avec une forme en losange, forme en V. Et qu'on va venir pousser sur la plaque pour réaliser une taille. Après, vous avez diverses outils comme le brunissoir, le grattoir, qui servent à corriger de temps en temps quelques maladresses, puisque faut savoir qu'en gravure, on a peu de repentir, peu l'occasion de se rattraper, donc il s'agit de bien maîtriser son geste. Puis vous avez le berceau, alors c'est difficile à expliquer comme ça, sans visuel, mais il faut imaginer comme un peigne avec des petites lames les unes à côté des autres, biseautées, qui forment une ligne en pointillé. Et je vais utiliser en fait cet outil pour bercer la plaque, c'est-à-dire tramer en fait la plaque de façon à ce qu'elle devienne le plus noire possible. Et avec mon brunissoir ou mon grattoir, je vais venir écraser ce grain de façon à récupérer des lumières. Bon, dit comme ça, on a peut-être du mal un petit peu à se représenter la technique, mais voilà, je voulais en parler aujourd'hui. Et ensuite, vous avez la taille indirecte. Donc la taille indirecte, ce n'est plus l'outil qui va creuser la plaque, mais c'est l'acide. Donc je vais venir recouvrir, le principe c'est de recouvrir sa plaque d'un vernis, qui va servir à protéger la plaque de métal. Et avec un outil pointu, je vais venir dessiner sur ce vernis, donc enlever le vernis. Et une fois que mon dessin est réalisé, je vais venir tremper, mettre la plaque dans l'acide, en la laissant plus ou moins longtemps, de façon à obtenir une taille plus ou moins profonde. Tout le jeu est là, en fait, c'est de réaliser plusieurs bains pour obtenir voilà, des niveaux de profondeur différents, de façon à obtenir un relief dans l'impression. Et puis pour finir, voilà, on encre la plaque, on essuie à l'aide de tarlatane et puis à l'aide de la main, en réalisant le paumage. Donc c'est la paume de la main qui va venir enlever les derniers restes d'encre, le gras de l'encre. Et une fois que mon encre reste uniquement dans les tailles, ma plaque est prête à être imprimée. Je viens y déposer une feuille de papier, généralement 100% coton, avec un grammage assez important, autour des 200-250 grammes. Préalablement mouillé pour lui donner un petit peu de souplesse. Et au moment du passage sous presse, cette feuille de papier va se déformer. À ce moment-là, on dit que le papier est amoureux, dans les jargons de l'imprimerie. Et il va venir chercher l'encre dans ses tailles. Et à la sortie, voilà, on a une épaisseur d'encre sur le papier. C'est pour ça que ce type d'imprimerie, on n'obtient pas cette épaisseur d'encre avec aucune autre technique d'imprimerie. Donc on a un résultat incomparable, y compris dans les encres utilisées, surtout dans les noirs, qui restent peut-être les plus beaux noirs quand on parle d'impression. Pour finir, je vais vous parler un petit peu de mon travail. Alors moi, je travaille la gravure avec la pointe sèche. J'aime ce contact avec la matière, avec le cuivre, hein, parce que j'utilise du cuivre. C'est l'un d'ailleurs des matériaux les plus courants, même si très coûteux aujourd'hui. Mais en taille directe, c'est vrai que c'est très agréable à travailler parce que c'est le matériau le plus tendre. Voilà. Et puis c'est très noble comme matériau. Donc c'est vrai qu'au début, ça peut intimider, surtout qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc on peut être intimidé lorsqu'on se lance sur une plaque de cuivre. Mais quel plaisir après à travailler ce matériau-là. La technique de la pointe sèche, ça consiste, enfin en tout cas dans l'utilisation que moi j'en fais, je viens piquer ma plaque en réalisant des points de profondeur variable. Plus je vais appuyer, plus je vais creuser ma plaque. La caractéristique de cette technique, c'est que j'enlève pas la matière, donc je la repousse sur le côté, ce qui fait qu'à l'impression, mon encre va rester dans le creux et elle va rester aussi sur ce copeau de cuivre repoussé sur le côté. Voilà, et ça va donner un petit halo autour de ce point, un petit halo sombre, une sorte de petite auréole. On peut dire aussi, ça va donner un petit côté baveux, même si j'aime pas trop ce terme, un peu duveteux, voilà. Et ça varie beaucoup à l'impression, donc très bien enlever cette encre autour du point, comme on peut la laisser et la rendre très dense. Donc c'est ce qui me plaît aussi, cette fragilité-là, cette inconstance-là, qui demande beaucoup de précision dans le geste. C'est une technique difficile à tirer, voilà, parce que ça bouge beaucoup. Donc, dans mon travail, voilà, je réalise ces points, je rapproche ces points plus ou moins, de façon à obtenir des valeurs plus ou moins denses. Donc je travaille essentiellement sur l'infiniment petit. J'ai toujours été attiré par l'infiniment petit. Pour citer Bachelard, voilà, le minuscule, porte étroite, ouvre un monde. Je suis fasciné par les structures, les matières, les formes, tout ce qui touche à l'organique. Et depuis quelques années, je collecte des curiosités que je trouve un peu partout. Mon entourage aussi me ramène des choses. Du coup, j'ai constitué un véritable cabinet de curiosité et j'ai entamé depuis quelques années une série qui s'intitule La métamorphose infinie. Donc je grave sur des plaques de 8 par 8, des petits formats, hein, parce que je me suis imposé ce format, parce que je voulais pas partir sur un format trop grand, parce que ma technique me demande beaucoup de temps et de patience pour graver un objet. Du coup, je me suis limité à une petite taille de façon à obtenir un résultat assez vite et pas me lancer dans une gravure interminable. Je trouve cette curiosité parmi les lichens, les coraux, les fruits, les graines, les bourgeons, les fossiles, le plancton. J'ai beaucoup été inspiré par Ernst Haeckel, qui a un travail remarquable, qui a fait des planches de biologie incroyables. Voilà, si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil, c'est un travail fantastique. Pour en citer un autre, voilà, il y a aussi Charles-Alexandre Le Sueur, qui a fait un très beau travail sur les méduses avec une pureté incroyable. Et donc, ça fait, voilà, depuis quelques années, là, j'ai plus d'une quarantaine de petites planches, comme ça, de petites plaques avec des curiosités gravées dessus. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'après, je peux les assembler, réaliser ce que j'appelle mes jardins suspendus. C'est-à-dire que je compose avec ces petites plaques les unes à côté des autres. Et d'ailleurs, je propose aux gens de composer leur propre jardin. J'ai beaucoup été influencé par la philosophie orientale, par le paysage aussi. Je me souviens avoir découvert le vide avec François Cheng dans mes lectures, sur le plein et le vide. Avec Titus Buchard aussi, j'ai découvert aussi le paysage extrême oriental. Mon travail tourne autour beaucoup du vide. Mes figures sont baignées de vide. Hein. Pour citer Titus Buchard, voilà, le miracle de l'instant immobilisé par une sensation d'éternité. Ce qui m'a fait remarquer un jour d'ailleurs, en regardant une de mes planches gravées, m'a dit « mais on dirait de la poussière déposée sur la plaque ». Et c'est vrai qu'il y a cette fragilité-là qui fait penser que cette figure va s'évanouir, va disparaître d'un moment à l'autre. J'ai choisi aussi de travailler au point parce que pour moi c'était l'expression la plus simple, qui était dépouillée de tout. Et je voulais vraiment ramener mon procédé à l'essentiel, utiliser un élément primordial, le point, qui contient en soi toutes les possibilités. Et en multipliant ce point, je faisais naître la forme. Je suis ce mouvement infini, décrivant la vie dans ses phases ininterrompues de germination, d'épanouissement, de maturité et de décadence. Ainsi, le minuscule porte étroite ouvre un monde. C'est lumineux, c'est transparent, c'est innommé, c'est sombre entièrement. C'est inconnu, libre de commencement et de fin. Cela se tient tranquillement suspendu dans le vide, forme nuageuse, îlot éphémère, comme fait de flocons de neige, soudainement cristallisé et bientôt dissous. »